Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 6h30, c'est l'heure du journal Les Infos, présenté par Stéphane Jeunesse. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous. Le tarif des péages en forte hausse début février, malgré la forte rentabilité des concessionnaires d'autoroutes. La réforme des retraites est sans contestation, journée de mobilisation prévue mardi, on vous explique à quoi il faudra s'attendre. Et le rugby français désavoue Bernard Laporte en refusant la désignation d'un de ses bras droits pour le remplacer. Un comité directeur de la fédération se tient ce matin.
C'est un débat qui revient souvent à la une de l'actualité. Faut-il nationaliser, renationaliser les autoroutes du pays?
Et s'il revient ce matin à la une, c'est parce qu'on apprend dans le Canard enchaîné de cette semaine que Bercy aurait fermé les yeux sur un rapport de l'Inspection Générale des Finances. Rapport qui évoque une sur-rentabilité des concessionnaires d'autoroutes. Et ça fait mauvais genre, puisque le prix au péage va encore augmenter la semaine prochaine de presque 5%, Vincent Chevalier.
45 000 km par an avec son travail. Yann est très souvent sur les routes et donc sur les autoroutes.
Alors je sais pas si je paye le prix juste, mais le prix il est quand même relativement élevé, oui.
Si ce directeur des ventes ne se plaint pas de leur qualité, ce n'est pas le cas d'Elisabeth.
Quand il y a un problème, quand il y a... on perd du temps et on n'a aucune excuse, rien du tout, il suffit de payer.
Dans ces conditions, difficile d'accepter une nouvelle hausse des prix au 1er février. La nationalisation des autoroutes représente alors une vraie solution pour certains.
Les prix seraient plus lissé peut-être.
Est-ce que potentiellement l'argent serait réinvesti pour les autoroutes après ça, c'est la grande question.
La France Insoumise avait déposé une proposition de loi dans ce sens, texte rejeté en première lecture, mais les élus n'en démordent pas.
Il faut reprendre la maîtrise publique sur un certain nombre d'infrastructures et les autoroutes doivent en faire partie.
Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis.
C'est une expropriation de l'État qui doit être réalisée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas en plus repayer à ces sociétés-là. On leur a fait un cadeau depuis des années où elles ont engrangé de l'argent. Aujourd'hui, ça suffit. Il faut que ça revienne sous maîtrise publique. C'est une urgence absolue.
Les concessions autoroutières arriveront à échéance dans les 10 prochaines années, entre 2031 et 2036.
Et on vous attend d'ailleurs au 32-16 pour en débattre. Est-ce que l'État doit reprendre la main sur les autoroutes? Est-ce que vous faites confiance à l'État pour gérer ces routes, hein? Est-ce que vous voulez que les autoroutes fonctionnent comme les nationales, comme les départementales? C'est vous qui êtes sur la route, c'est vous qui témoignez, c'est vous qui payez au fond ces autoroutes tous les jours, ces barrières de péage. C'est vous qui venez nous le raconter ce matin, vous témoignez au 32-16. On va en débattre dans un instant avec toute l'équipe. Alors, c'est votre avis sur RMC et RMC Story.
L'actualité ce matin, c'est aussi la réforme des retraites, évidemment. Le texte qui arrive à l'Assemblée nationale. 7000 amendements déposés, que ce soit par l'opposition ou par la majorité. Marine Le Pen, la présidente du groupe RN au Palais Bourbon, appelle les électeurs de la majorité et de la droite justement à faire pression sur leurs députés pour contrer la réforme.
Je pense que le vote de cette loi n'est pas joué. Il reste encore un certain nombre de jours où, à mon sens, les électeurs LR doivent faire maintenant pression directement sur leurs députés. Ils doivent interpeller leurs députés pour leur expliquer qu'il n'est pas possible de soutenir une réforme qui est une réforme, encore une fois, profondément injuste, profondément antisociale.
En attendant, la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est mardi. Et ce matin, RMC vous révèle cette tendance. Il y aura apparemment moins de grévistes chez les directeurs d'école, seulement 40% d'entre eux, contre 65% lors de la dernière journée de mobilisation du 19 janvier. Et on en sait un peu plus sur l'importance du mouvement de mardi, Romain Houg.
Oui, la mobilisation qui s'annonce tout de même très suivie. Les syndicats, en tout cas, sont optimistes, notamment du côté de la RATP, où le mouvement devrait être aussi fort que le 19 janvier dernier. Ça, c'est ce qu'un élu promet. Les transports franciliens avaient été largement paralysés toute la journée. Le mouvement qui devrait être suivi également dans les trains de la SNCF. Les quatre syndicats majoritaires appellent à la grève. Dans les écoles, l'accueil des élèves sera une nouvelle fois perturbé, comme dans le secondaire, où plusieurs syndicats de lycéens appellent au blocage des établissements. Le secteur de l'énergie, lui aussi, est très mobilisé. La CGT a d'ores et déjà annoncé qu'il fallait s'attendre à d'importantes baisses de production d'électricité dès lundi. Enfin, dans les raffineries, de nombreux salariés ont cessé le travail. Hier, la grève, qui devait durer 48 heures, pourrait finalement s'arrêter dès dès ce matin sur plusieurs sites afin, selon la CGT, de se préserver pour la mobilisation de mardi prochain.
Les précisions de Romain Hoog pour RMC. À l'international, au moins 10 Palestiniens tués par l'armée israélienne hier et cette nuit en Cisjordanie et à Gaza. Israël qui présente ses opérations militaires comme une réponse à des frappes du Hamas. Et l'Ukraine, où au moins 11 civils tués hier après une nouvelle salve de bombardements russes, des sites énergétiques touchés, ce qui a provoqué des pannes d'électricité. Et en marge de cette guerre d'ailleurs, Kiev demande à l'Open d'Australie que le père de Novak Djokovic soit interdit de stade. Il a été filmé avec les supporters brandissant des drapeaux et des symboles pro-russes. Retour en France, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses, les villes qui installent des bornes d'appel d'urgence pour lutter contre l'insécurité. Le concept, grâce à l'activation de la borne, les caméras de surveillance pointent directement la personne en danger. Dernière ville en date, Libourne en Gironde, Bettina de Guglielmo.
Les habitants de Libourne se sentent de plus en plus en insécurité. André, 80 ans, s'est fait agresser il y a quelques mois.
Pour une ville de 25 000 habitants, ça surprend un peu. Moi, je suis sceptique quand même. C'est pas avec des bandes d'appel qu'on résout certains problèmes.
Un dispositif qui pourra permettre aux habitants de sortir davantage en soirée, selon Stéphanie, commerçante en centre-ville.
C'est 7h30, quand les magasins ferment, et c'est vrai que ça traîne, c'est des jeunes qui traînent. Et peut-être que du coup, les gens reviendront un peu plus dans Libourne le soir, parce que je pense que c'est ce qui fait aussi que... moins de gens dans les bars, etc.
Maire adjoint à la sécurité de Libourne, Jean-Louis Arcaraz, explique comment fonctionneront ces bornes d'appel.
Dès qu'on appuie sur le bouton de cette borne, les caméras qui sont à proximité vont se mettre en relation avec la borne et la proximité de la borne et prévenir l'opérateur qui pourra directement parler à la personne et lui donner les réactions à avoir en urgence, quoi, et pouvoir intervenir le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans la minute ou les deux minutes qui suivent l'appel.
Les bornes d'appel d'urgence ont déjà fait leurs preuves à Nice, notamment en 2020. Le dispositif a permis d'appréhender un terroriste.
Le reportage de Bettina de Guglielmo avec les équipes de BFM TV. Les sports à présent, avec le comité directeur de la Fédération française de rugby qui se réunit ce matin à Marcoussis après la mise en retrait de Bernard Laporte. La crise s'aggrave. La désignation de Patrick Buisson comme président délégué de la Fédé a été rejetée hier par les clubs amateurs. Un comité directeur donc auquel assistera Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, et elle entend bien mettre la pression sur le clan Laporte.
Je serai à Marcoussis avec l'ensemble des membres du comité directeur pour leur porter mon message, pour les écouter et ensuite les laisser délibérer, les laisser prendre leurs responsabilités afin de rétablir le plus rapidement possible une gouvernance qui soit à la fois claire et légitime à la tête de cette fédération et de le faire dans l'intérêt supérieur du rugby français.
Et le sport, c'est aussi ce rendez-vous ce soir, 21h, demi-finale des championnats du monde de handball. La France qui affronte la Suède, rencontre que vous vivrez évidemment en intégralité sur RMC.
Et puis, évidemment, Stéphane, le quintet, les pronos de la Dream Team, aujourd'hui, ça se court à Deauville.
Oui, c'est en nocturne avec un départ à 20h15. Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le numéro 3, mon ami l'Écossais. Leur outsider, c'est le numéro 12, Dr. Ron, le 3 et le 12.
C'était les pronos de la Dream Team, le journal complet avec Stéphane Genest. On vous retrouve à 7h30 pour un prochain journal en direct sur RMC et RMC Story.